points fermés, les points vitaux, les points sur les i, les cardinaux.
Le pont Mirabeau, ou le pont Mirabeau,
les terminus pointent à la ligne, les points de suspension de ces lignes.
Voix, Flower, c'était la dernière. Cascade jetée dans le noir. Chanvre, écorcé, filet, dès le début c'est perdu. Plus bas, je serrai ses mains fermées le sommeil.
Sur un banc, virgule. Ou telle publication neuve, virgule. Je me réjouis si l'air, virgule, en passant, virgule, entr'ouvre et virgule, au hasard, virgule, anime, virgule, d'aspect, l'extérieur du livre.
De toi. J'en finis plus.
À quoi
dans la tête, comptez les points. Point, point, point.
Éloge d'un signe de ponctuation, Jean-Pierre Collignon, le guillemet.
Le guillemet, bien sûr, est extrêmement important et on pourra en parler pendant des heures. Il y a les guillemets, bien sûr, de présentation, des citations et des dialogues. Les dialogues, si on veut que le lecteur comprenne bien un texte, il faut être extrêmement rigoureux dans la présentation des dialogues, c'est-à-dire ouvrir ce qu'on appelle les guillemets français, puisqu'il y a plusieurs sortes de guillemets. Donc comme nous sommes en France, nous mettons d'abord les doubles chevrons qu'on appelle des guillemets français. Si à l'intérieur de cette citation entre guillemets français intervient une citation de deuxième niveau, cela sera mis en guillemets anglais, c'est-à-dire des apostrophes renversées, apostrophes à l'endroit. Et s'il y avait encore une troisième citation interne, ça serait mis entre apostrophes simples. Les guillemets, surtout, sont la marque de beaucoup de choses. Ça peut être la réserve, ça peut être l'ironie, ça peut être la plaisanterie, ça peut être l'hésitation devant l'introduction de mots nouveaux, pas encore lexicalisés. Ça peut être plein de choses. Par exemple, le journal Le Monde, je pense, est le seul à faire cette distinction suivante. On met entre guillemets, mais en même temps, en italique, les propos d'un tiers que l'on reproduit. Donc là, c'est clair et net, le lecteur qui voit de l'italique plus les guillemets se dit, le journaliste du Monde ne prend pas vraiment en compte cette citation qui appartient à un tiers. Le journal ne peut donc pas être poursuivi vraiment pour la tonalité. Le texte reste en caractère romain à l'intérieur du guillemet. Ces guillemets sont bien voulus et en sert un texte vraiment issu de la rédaction. Même si on a pris la précaution de mettre des guillemets, ça n'empêche pas d'avoir éventuellement des poursuites. Un mot cité, un mot autonyme, c'est un mot, c'est-à-dire un mot pris en exemple et cité à titre d'exemple. Si je dis le mot chatte à deux T, chatte n'a pas d'emploi grammatical dans cette phrase, mais c'est un mot autonyme, on le met en italique. Mais si ce mot chatte est suivi de l'acception de la signification femelle du chat, l'acception, elle, figurera toujours en romain, entre guillemets. Il y a toujours cette différence-là. Si on cite un titre de journal, ce titre de journal sera en italique. Mais si on cite derrière un titre d'article, le titre de l'article, lui, sera mis entre guillemets et en caractère romain. Moi, j'aime bien, et tout le monde n'est pas d'accord pour ça, garder les noms d'ouragans, de tornades, entre guillemets, par exemple. Oui, on n'est pas obligé. Par exemple, les noms d'animaux... la chienne Mirza, le chien Médor, la jument, je ne sais pas, Kito 3 par exemple. Il n'y a pas obligation de mettre ces noms-là entre guillemets. Moi je préfère faire quand même ressortir ces noms d'animaux, non pas en italique, ce ne sont pas des titres d'œuvres, ce ne sont pas des titres de films ni de livres, ce sont des noms de personnages, d'animaux vivants en tout cas. Moi je préfère mettre des guillemets, je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Ça peut être aussi un petit côté, je sais pas, familier ou alerte qui convient bien à des noms d'animaux, ou éventuellement à des noms d'ouragans, même si là c'est beaucoup moins sympathique. Je préfère garder les guillemets pour ça, par exemple. On a aussi, par exemple, les guillemets à la fois de précision et à la fois un peu ironique. Par exemple, lorsqu'on parle de la Deuxième République en Italie. C'est-à-dire que la Première République, sans mettre de majuscule ni mettre première en chiffre romain, c'était la République italienne avant l'arrivée de Berlusconi. La Deuxième République qui n'a pas vraiment porté ce nom-là, donc on ne peut pas mettre deuxième soit avec des majuscules, soit deuxième en chiffre romain avec majuscule la République, c'est la République berlusconienne, donc là, entre guillemets.
Jean-Pierre Collignon, vous êtes le chef correcteur du journal Le Monde, et donc c'est très important de vous entendre sur ce chapitre-là, sur la ponctuation. Parce que bon, j'imagine que vous devez être sur le dos un peu tout le monde au Monde pour vérifier que la ponctuation est bien utilisée par tous.
Effectivement, la surveillance de la ponctuation des journalistes fait partie de l'ensemble de ce métier de correcteur qui consiste à, d'une part, veiller à l'orthodoxie grammaticale, orthographique, au suivi d'une ponctuation sinon rigoureuse, du moins qui puisse être comprise parfaitement par le lecteur moyen, disons. il faut, je crois, se mettre, lorsque je suis à ma place, dans ma position, se mettre à la place des lecteurs et essayer de veiller à bien transmettre la teneur des articles. Et donc la ponctuation est un vecteur important de cette transmission de l'information.
Ce sont les typographes, en grande partie, qui ont élaboré ces règles, essentiellement au XVIIIe siècle. Est-ce que c'est du ressort vraiment du typographe, du chef correcteur, de l'imprimeur ?
Je dirais oui. Déjà, les imprimeurs se sont mêlés de ponctuation. Les imprimeurs qui étaient de fins lettrés. Il ne faut pas oublier que les imprimeurs, les typographes, et on ne pouvait pas encore parler de correcteurs à cette époque, avaient le droit de porter l'épée. C'était presque des nobles. Donc c'était des gens extrêmement lettrés, qui certainement maîtrisaient complètement le latin, le grec, voire d'autres langues. Ils étaient considérés comme ayant le droit d'avoir des responsabilités assez considérables et donc de se mêler effectivement de la définition de règles nouvelles que chacun devait appliquer puisqu'il n'y avait pas d'autre autorité en quelque sorte pour parler d'orthographe ou de ponctuation, etc.
Vous voulez dire qu'ils étaient plus autorisés que les écrivains ?
Je pense qu'il y a eu une période où effectivement les maîtres imprimeurs et leurs correcteurs, qui étaient des gens des puits de science, comme l'on dit, avaient certainement autant de poids, autant d'autorité, sinon plus que les auteurs eux-mêmes.
Les chemins de la connaissance.
La vocation première de la ponctuation est de lever l'ambiguïté, mais la structure mentale de l'homme ne correspond pas nécessairement à la structure grammaticale de la langue. La ponctuation est un point de contact entre la règle, l'universel et la voix intérieure de chacun de nous qui détient son secret. Jacques Roubaud, la ponctuation vue par un poète.
On sait que depuis la fin du 19e siècle, les poètes ont eu tendance, je ne dis pas tous, mais un certain nombre d'entre eux, c'est particulièrement net chez Mallarmé par exemple, à mettre de moins en moins de ponctuation, éventuellement à la supprimer complètement. Pourquoi ? Parce que la ponctuation à partir du XVIIe siècle, sous l'influence des grammairiens, de l'Académie, et c'est vrai aussi jusqu'au XIXe, a tendance à fixer les articulations du point de vue de ce qui est dit dans le texte et autant que possible de manière non ambiguë. Or, la poésie a parfois besoin de cette ambiguïté, de ne pas décider si tel mot va se rapporter à tel autre ou même s'il s'y rapporte, laisser quand même l'écho. D'où la tentation donc de fuir finalement la ponctuation. C'est une chose qui est intéressante, mais c'est pas non plus véritablement une solution. Pour ce qui est de mon exemple personnel, quand j'ai réfléchi à ce problème-là, je me suis dit que pour moi, la poésie était à la fois pour l'œil et pour l'oreille. Or, on peut marquer, bien entendu, les virgules, les points-virgules et les points à l'oreille. Mais il y a quelque chose que le point ne marque pas, ou aucun point de ponctuation ne marque, c'est une certaine durée, une interruption dans le poème de durée que représente la ponctuation. Donc une des possibilités consiste à mettre des blancs plus ou moins étendus. Les signes de ponctuation, on peut dire que dans le français standard, soutenu, écrit, le point est en quelque sorte renforcé par le fait qu'on le fait suivre par une majuscule. Alors on peut donner au point une sorte de position ambiguë, hein, c'est toujours la même chose. Il va être là, donc il va marquer un point, il y a quelque chose qui s'arrête dans ce qui est dit, mais le fait de ne pas mettre de majuscule après indique aussi que l'on peut continuer en même temps. Donc il y a un jeu entre le continu et le discontinu qui est un jeu essentiel dans la poésie. Et donc une certaine manière de traiter la ponctuation est une façon de lui faire jouer ce rôle, qui est un rôle qui respecte en partie le rôle de la ponctuation ordinaire. Moi, je ne suis pas pour la, je ne la nie pas, mais qui en même temps essaie de dire quelque chose d'autre. Alors, quand on voit des choses de ce genre, enfin des tentatives de ce genre, elles se rapprochent beaucoup d'une situation qui est antérieure à celle dont je parlais, c'est-à-dire au XVIIe siècle, au classicisme, parce que antérieurement, la ponctuation joue plusieurs rôles, et en particulier chez les poètes, mais aussi en grande partie dans la prose, elle joue en même temps qu'un rôle de marqueur d'articulation dans la phrase et dans la pensée, elle joue aussi un rôle rhétorique. Donc c'est bien, c'est ça, elle donne des intentions. On peut mettre des signes de ponctuation qui ont l'air bizarres par rapport à la façon dont on couperait normalement, mais ils ont des intentions, et on trouve ça dans les impressions du début du 16e, même du 16e. Et puis surtout, alors, ce qui est frappant, c'est dans les manuscrits médiévaux. Le manuscrit médiéval de prose, très fréquemment, je pense en particulier à la grande prose du Lancelot en prose, il y a quelque chose de très net quand on lit les éditions modernes, qui sont ponctuées et qui ont rétabli donc l'articulation de ce qui est dit. Il manque quelque chose. En effet, dans certains manuscrits, il n'y a des ponctuations que des points, et ces points se situent souvent assez loin, c'est-à-dire une sorte de période que l'on peut dire d'une seule voix. En fait, c'est ça. Ils ont un rôle. Un rôle de ce genre, un rôle de ponctuer, au fond, de donner l'écho de la voix du conteur qui va lire à haute voix ce texte. C'est toujours la même chose. Il y a un aspect d'oralité dans le texte, aussi bien prose d'ailleurs que poésie, c'est surtout vrai pour la poésie, qui ne peut pas être vraiment exprimé par la ponctuation ordinaire.
Mais que penser des poèmes sans ponctuation quand on les lit à l'oral, justement, pour lesquels il faut rétablir une ponctuation?
Les poèmes dans lesquels il n'y a aucune ponctuation, d'abord, c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce que dans beaucoup de cas, ces poèmes n'étant pas des poèmes en prose, il va y avoir cette ponctuation silencieuse, mais très importante, qui est d'aller à la ligne. Hein, et puis des écarts entre strophes, celle-là est très importante. Et elle joue. Mais disons, tenant compte du fait qu'il peut ne pas y avoir de ponctuation à l'intérieur d'un vers, à ce moment-là, ça insiste sur la continuité et ça demande donc à faire un effort pour saisir ce qui est dit. Donc ça, d'une certaine façon, ça doit amener une certaine intensification de l'attention sur le texte. On a tendance à lire un peu paresseusement. Et quand ces poèmes-là sont lus à haute voix, celui qui les lit donne son interprétation, qui n'est pas forcément la même d'un lecteur à l'autre, mais ça fait partie de la richesse d'un texte poétique, de pouvoir être comme cela lu avec des interprétations de ponctuation implicite que l'on n'a pas obligatoirement sur le texte. Moi, j'aime bien une situation de ce genre. De la même manière que la poésie se fait beaucoup avec des nombres, hein, avec une façon de compter, qui n'est pas, évidemment, dans la poésie contemporaine, n'est pas la manière de compter de la poésie traditionnelle, mais certains poètes, dont je suis, continuent à faire intervenir des nombres et des dispositions de nombres. De la même manière, le placement des signes de ponctuation, avec ces indications d'arrêt qu'ils représentent, et d'arrêt gradué, hein, plus ou moins important, ceci fait partie de ce qu'on pourrait appeler la mise en place numérique d'un poème. C'est pourquoi, pour moi, c'est très important, et c'est des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, souvent, quand on imprime, soit dans une revue, soit un éditeur, se battre pour la position d'une virgule. Ça semble ridicule, mais ça fait quand même partie de l'esthétique rythmique de la chose.
Le point virgule, vous êtes du genre à pas l'aimer?
Je n'arrivais pas à mettre de point de virgule dans la poésie. Je pense pas que j'en ai mis beaucoup. Alors du coup, à un certain moment, comme j'écris aussi parfois de la prose, j'ai eu tendance à mettre trop de point virgule. Et en plus, après avoir beaucoup, beaucoup composé de poésie, beaucoup lu de poésie, je ne savais plus où il fallait mettre des points-virgules. Donc, j'ai eu une grande crise avec le point-virgule. Maintenant, on est à peu près réconciliés. On a mis en doute le rôle de la ponctuation. Il y a pas mal de prosateurs qui l'emploient pas ou qui l'emploient de manière curieuse. Et bien entendu, un des textes qui m'a le plus préoccupé sur la ponctuation, y compris la ponctuation poétique, c'était le texte de Gertrude Stein dans ses conférences en Amérique, Lectures in America, où elle part brusquement dans des réflexions sur la ponctuation, tout à fait une attaque contre la virgule. Très violente, et elle explique pourquoi dans son grand roman The Making of Americans, 900 pages, on avait enlevé toutes les virgules. Et là, il y a tout un texte à la fois bizarre, énervant, passionnant et excitant où elle discute les vertus à la fois morales et stylistiques des différents éléments de la ponctuation.
Et la parenthèse ?
Il se trouve que je suis mathématicien. Je suis mathématicien et par conséquent, il y a en mathématiques, particulièrement en algèbre et en logique, dans la logique combinatoire, il se trouve spécialement dans certains morceaux de la mathématique sur lesquels j'ai travaillé, il y a un traitement des parenthèses il y a des propriétés des parenthèses qui sont très riches, très, très difficiles et très intéressantes. Donc, il y a la célèbre notation polonaise en logique qui dit que dans des textes qui sont logiquement bien constitués, avec certaines conditions, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, quand une parenthèse est ouverte, il n'y a qu'une manière de la fermer. Par conséquent, ce n'est pas la peine de la fermer. Donc, on ne peut ne mettre que des parenthèses ouvrantes. Donc, ça m'a amené à regarder les parenthèses d'une façon très différente. Et en particulier, d'essayer de jouer donc sur le fait que dans un texte de poésie ou dans un texte de prose ordinaire, comme il n'y a pas ces obligations de la logique, l'ambiguïté va exister. Si vous ouvrez une parenthèse, vous ne saurez pas où elle doit se fermer, en général. Donc on peut laisser ça de façon énigmatique. Donc on peut jouer beaucoup avec les parenthèses. Par ailleurs, il y a au moins un texte littéraire qui fait un jeu extraordinaire avec les parenthèses, c'est Les Nouvelles Impressions d'Afrique de Raymond Roussel. Avec ces parenthèses superposées qui se ferment au-dessus et autour d'une succession de tirées, c'est assez extraordinaire. C'est très intéressant de suivre, de voir. Et je ne pense pas qu'il ait fait beaucoup d'erreurs. Donc elles se ferment vraiment, et il y en a jusqu'à 6 qui se superposent. C'est très extraordinaire. L'hypothèse de Dingve dit qu'on ne peut pas percevoir plus de 6 de ces imbrications. Et là, c'est très curieux qu'il se soit arrêté à cette profondeur-là. C'est une remarque qui n'est pas de moi, qui est due au grand linguiste Maurice Gross, qui autrefois disait que c'est assez curieux de voir comment les nouvelles impressions d'Afrique sont une sorte de réalisation d'une hypothèse empirique sur les constructions imbriquées dans le monde.